Alors tu veux faire danseur?
And push and turn and table dance.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez! Et bienvenue, une nouvelle semaine dans votre émission Le Mans en chaussures. Cette émission qui entend la danse partout dans nos vies quotidiennes et qui essaye de donner un partage de ce qu'on peut comprendre comme mouvement et comme la danse. Et dans ce moment, on est en train d'étudier un énorme livre qui est une sorte de bible pour les gens qui font de la danse contemporaine, qui est écrit par Laurence Loupe, c'est la poétique de la danse contemporaine, et nous nous accrochons à cette verbalisation très intense de Madame Loupe qui nous hante et qui nous donne beaucoup d'outils pour penser la danse, mais aussi pour la pratiquer. Aujourd'hui, nous sommes attachés au concept de flux. On en avait parlé de Laban et la conception, le leg qui nous a énormément contribué. Et je vais ouvrir l'émission avec une petite citation de Yvonne Reiner qui ouvre le chapitre des poétiques des flux de la poétique. Ce qui fait qu'un mouvement est différent d'un autre n'est pas tant l'articulation des différentes parties du corps concernées que la différence de l'intensité d'énergie. Et c'est de ça qu'il va s'agir cette émission aujourd'hui, sur l'intensité et les degrés de l'énergie. Et donc, on avait parlé que le flou appartient à ces quatre facteurs que Laban nous a décrit, qu'on a beaucoup exploré. Et donc aujourd'hui, il s'agit de celui-là, de flou, et de ces bouleversements que la tonicité musculaire fait au mouvement. C'est là où se trouvent les centres de cette conception qu'aujourd'hui on va traiter. On était la dernière fois sur l'instinct présent, sur cette capacité impressionnante que les danseurs ont ou que la danse a de nous permettre de concevoir l'instinct présent, c'est-à-dire ce qui s'est construit au même moment de se faire. Et la danse est particulièrement très puissante à faire ce type des pulsations, mais aussi d'arrêt. On parlait du temps la dernière fois et comment cette perception du temps dans les chez les spectateurs, celui qui regarde, est toujours avec une attente extrêmement puissante de ces configurations qui s'est créées sur scène. Et aujourd'hui, on va parler, c'est toujours relié, ces rapports qui sont immédiats et qui sont à partir du rythme intérieur du corps. Donc le corps, selon Dalcroze, toujours ce musicien qui a beaucoup posé des modèles sur la modern dance, est à la fois une caisse de résonance, un instrument, un archer de ses champs antérieurs. Donc là, on voit clairement trois aspects absolument marquants de comment ce corps au XXe siècle a été perçu. Donc certes, c'est une carcasse qui peut servir de résonance, mais c'est aussi lui-même l'instrument de sa propre recherche, et il peut être aussi un archer, c'est-à-dire quelque chose qui va activer, qui va détonner une dynamique, un rythme intérieur. On doit aussi rappeler que le rythme, c'est-à-dire cette notion qui traverse la musique et la danse, on doit absolument le regarder de près et voir qu'on peut, on doit l'opposer à la mesure. Parce que la mesure et la métrique, ce sont des régulateurs, tandis que le rythme est plus l'animateur, c'est-à-dire c'est l'âme qui est à l'intérieur du geste et des mouvements qui sont proposés et qui sont vécus. Parce qu'on peut tout de suite tomber sur quelque chose de réductionniste où on va traiter le corps comme en l'assimilant à des régularités ou à des consonances qui sont extérieures et qui ne sont pas... qui font pas origine à partir des structures du corps, mais à l'extérieur avec quelque chose de mesuré, de régulier. Non, donc le rythme, c'est quelque chose qui nous parle plus des transformations et des perturbations. Donc quand on va parler de rythme, c'est plus des notions comme l'obstacle qui vont venir dans notre exploration, c'est plus les trébuchements. Non, c'est plus ces reprises, c'est ce qui nous font ressentir qu'il y a quelque part un changement, une altération dans la continuité, dans la linéarité. Donc c'est là où on va pouvoir apercevoir qu'il y a un rythme. Donc c'est pas forcément quelque chose de régulier, mais dans le corps notamment, parce que c'est une logique différente à un instrument musical, par exemple. C'est là où on va voir de façon plus évidente qu'il existe un rythme déjà à l'intérieur de l'anatomie du corps, par exemple. Et on en avait beaucoup évoqué cette notion qui me semble absolument importante à rappeler, parce que notamment quand on travaille la danse, quand on veut essayer de faire des explorations, la jeunesse aujourd'hui elle a du mal à se rendre compte que ce rythme est déjà à l'intérieur de nous. Et donc beaucoup de chorégraphes ont déjà proposé des façons d'explorer et d'analyser ce qui existe déjà dans notre anatomie. Et donc c'est une révisitation du corps pour étudier la musique interne, la musique qui est placée dans notre propre structure. Donc c'est le rythme est plus une notion qui est incarnée, qui est sous la peau et pas dynamisée de l'extérieur. Donc c'est pas la musique qui va faire jaillir la musique du corps, c'est le corps lui-même qui doit proposer sa propre extériorisation et transposition de sa musique, de sa façon, de son rythme intérieur. Et donc c'est là où on voit toujours cette notion double, des en-deçà et au-delà du contour. Parce que quand il s'agit du corps, c'est la frontière qui est toujours brouillée entre ce qui est en deçà de ce contour, de cette silhouette, et au-delà de cette silhouette. Donc il y a une partie infinie de quand on bouge qui se cache dans cette liminarité, dans cette contour et autour de ce contour. Donc il y a par exemple des vibrations et des crispations qui, quand on bouge, on peut les apercevoir, on se rend compte que c'est pas un contour comme finalité, mais qui, dans l'entrée d'eux, dès l'élaboration de ces mouvements, il y a énormément d'informations qui est cachée, qui est comme une sorte de passage vif qui s'est rend évident quand on travaille et qu'on on souhaite d'explorer plus profondément. Et aussi rappeler que cette notion de flou est soumise à une période du XXe siècle où Nietzsche a proposé sa perspective sur la danse, et donc il propose que la danse et la musique, c'est les deux arts qui peuvent nous sortir de la mimésis. Rappelez-vous que la mimésis, c'est une conception d'Aristote, et donc il y a des arts de la mimésis, et la danse et la musique peuvent sortir de cette conception un peu classique. Et donc la musique sert de modèle, bien évidemment, pour que la danse puisse, à son tour, faire de même. Et donc le flou, cette notion qui vient compléter les quatre notions de Laban, parle de la couleur, de la tonicité profonde de la musique interne de ses gestes. Et donc... on la traduit comme flow, comme quelque chose qui est au plus près de l'intimité des pratiques chorégraphiques. C'est le centre de toute la recherche dans l'univers chorégraphique. C'est un terme qui est très utilisé, on s'attarde beaucoup à travailler parce que c'est les grands les plus près de ce qu'on peut travailler avec les mouvements. Et donc, le flow, c'est une qualité avec laquelle le poids se décline. Donc, c'est pas forcément juste tout court comme le corps se déplace, mais avec quelle qualité, avec quelle énergie à l'intérieur de ce déplacement le corps utilise pour le faire. Et là, on revient à quelque chose qu'on avait déjà... un peu évoqué une fois, c'est la recherche de Émile Van Veenst. Émile Van Veenst, c'est un linguiste que j'apprécie beaucoup, qui nous a beaucoup apporté, et notamment avec sa notion de rythmos. Je ne sais pas prononcer ça, mais c'est du grec du 4e siècle. Et donc il propose le mot forme. Sauf que le mot forme, quand on l'entend dans la contemporanéité, il est attribué uniquement à la silhouette. Tandis qu'à l'époque, dans les Grecs du 4e siècle, le mot forme, il va traiter le contour, mais aussi tout ce qui est autour de ce contour. L'exemple précis, c'est quand on voit une vache dans l'horizon, et derrière, il y a le soleil. On voit très bien que la silhouette de la vache, elle ne s'arrête pas à la vache. Elle transpire autour de ce contour. Et le mot forme de l'époque était plus complexe dans cette flou avec lequel on perçoit une forme dans les lointains. Et donc, ils vont se servir justement de cette fluidité du contour pour nous proposer ces conceptions de flow qui va nous parler certes du contour, mais de quelque chose qu'on va parler tout à l'heure. Et donc je vous laisse en compagnie d'un archive de José Limón, et je vous souhaite à tout à l'heure.
Thank you.
Et avec cette intervention sonore que j'aime beaucoup, bien évidemment, on n'a pas l'image, mais c'est tout l'enjeu de la radio. On nous parlera tout à l'heure de José Limón. C'était José Limón. Tout ça pour dire aussi que donc cette conception du mot forme, qui ne contient pas seulement la silhouette, mais qui est aussi... en train de parler de ce qui se passe autour de cette forme, donc la chose en elle-même, elle est déterminée par ce qu'elle elle transpire, par ce que et son contour nous laisse aussi voir en plus de la forme solide ou rigide qu'on pouvait penser en termes de géométrie. Et donc le terme de flow pour Laban et pour beaucoup de chorégraphes va pouvoir être free ou lié, bound. Free donc c'est libre et bound ça sera plus ligné et loop nous propose la traduction de noué. Donc on va voir que ce qui sera intéressant du flow c'est le passage entre l'affaissement et l'intensité tonique. Et donc, par exemple, chez Doris Humphrey, on va pouvoir être au plus près de ces concepts à partir des swings, non ? Donc, où on va, par exemple, placer un corps dans la position supine, c'est-à-dire que le dos est complètement couché par terre, les jambes sont pliées, et on va commencer à déplacer le poids des genoux et des jambes sur un côté, sur par exemple le côté gauche, et on va permettre que les jambes s'élancent. Et on va revenir, et on va aller de l'autre côté. Donc on va profiter de l'effet gravitaire, on va... donner quelque chose qu'à l'époque on ne le donnait pas, c'est la place pour le genou. Donc le genou ne sert pas d'appui. Le genou, oui, je me suis trompé. Les jambes ne sont pas un appui, mais c'est la première fois en danse où on va permettre que le jambe puisse être un peu dans l'air et qu'il puisse avoir un peu de liberté et qu'il ne sert pas d'appui seulement dans la position verticale. Et donc là, on voit qu'il y a un étirement du vide au plein ou au contraire on peut le raccourcir donc on peut étirer ces vides ou le raccourcir par une ellipse et donc ça va donner un état plus tonique ce qui va permettre au chorégraphe de créer des failles donc là où on va voir une ligne dans les danses classiques. Ici, on va créer une brisure, on va casser cette ligne. Et donc, on va par exemple intensifier une partie qui est censée être lente. Et dans l'abandon, ça va être rapide. Donc, par exemple, moi, je vais soulever mon bras. Et normalement, je peux le faire lente. Et quand c'est l'abandon, pouf, je les laisse tomber. Et donc là, on voit que les rythmes classiques auxquels les spectateurs avaient habitude d'assister, ils vont voir une faille, une modification de cette dynamique. Et c'est là où la danse contemporaine, elle va provoquer une révolution de comment les choses sont traitées et de l'effet que ça va proportionner visuel. Et donc là, on peut, comme je le disais, soit on peut étirer, soit on peut raccourcir cette intensification et cet abandon. Et là, c'est les chorégraphes qui vont choisir à quel moment on va les faire, comment on va les faire et avec quel objectif. Et donc, dans cette conception de Doris Humphrey, il y a forcément une explication philosophique qui est rattachée à la durée de la vie et à la rapidité de la mort. Non. Donc on voit un écho de ce travail physique avec ce qu'on constate tous de la durée du temps, de la durée de cette fluidité avec nos vies et notre mort. Elle parlait d'une part maudite dans ces mouvements, donc c'est cet acte des dépenses immédiates, de tout stockage d'intensité. Non. Donc cet abandon, c'est ces bras qui tombent. On voit clairement que c'est une opposition, en opposition avec la lenteur et l'intensification du membre qui monte et qui après, poum, retombe de façon soudaine. Un autre exemple de cette flow, c'est par exemple quand on retient la respiration longuement et que après on revient, on la laisse sortir. Et à ce moment-là, quand on fait cette expérience, on peut enfanter tout type d'imaginaire. On peut s'imaginer tout type de situation parce qu'il y a justement cet arrêt de la respiration et qui va produire absolument quelque chose parce que notre corps va être tout de suite dans une sorte d'échappatoire et de activer complètement. Et un autre exemple, c'est celui de Trisha Brown, donc Lawrence Loop, je cite, parle du passage libre entre les états des tonicités, ce qui favorise une circulation admirable de flou. Ça, pour parler de Trisha Brown, où on voit clairement que il y a des flux qui sont proposés, et après c'est fluide, mais il y a quand même des choses différentes des unes aux autres. Vous avez l'occasion de regarder les travaux de Trisha Brown sur l'accumulation. Après, nous avons Odile Duboc, et là je cite, qualité fluente d'un mouvement libéré, à peine cerné dans sa palpitation par d'inceptibles charnières. Et on voit des différences entre ces deux chorégraphes, de cet état tonique, et on peut le travailler avec, par exemple, la respiration faible, que par exemple une émotion comme la colère ou la surprise peuvent donner, et ou un état affaisé, avec une respiration profonde, par exemple un état amoureux, donc c'est beaucoup plus profond. Et bien évidemment, on peut tomber dans on peut être très vite dans un problème de monotonie. Donc c'est là où on voit le brio des chorégraphes, quand on sait qu'il y a des façons un peu monotone de travailler ses respirations, ses tonicités. Et eux, ils vont explorer au millimètre près, comme on dit notre générique, ces notions et les altérer. Et produire quelque chose qui sort de la ligne de force de cette tonicité, parce qu'il ne faut jamais oublier que la tonicité, quand on parlait de muscles, quand on parlait de ces déplacements du corps, le corps est soumis à des lois de la physique. Et c'est ces lois de la physique qui vont être au centre de toute cette proposition chorégraphique qui va explorer ces jeux des tensions qui sont dans notre sensation de la gravité. Une autre conception qui est rattachée au flow, c'est le release. Donc le release, c'est un domaine qui appartient à un registre négatif de l'attention. Et donc par exemple, on entendait tout à l'heure un peu une sonorité de danse expressionniste et où on voit l'exaspération des tensions. Donc c'est un état des tensions qui n'est pas seulement le relâchement. C'est une errance des tensilités, dirait Laurence Loop, à l'inverse de l'amorce. Je vous souhaite une bonne semaine avec de nouvelles explorations mouvementées dans vos vies, dans vos occupations. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle abandon de la verticalité.
Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn. And people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit! On se tourne vers le miroir, allez!